C'est vendredi, c'est les brèves d'Émilie. Connaissez-vous les Fortune Cookies ? Vous savez, ces petits biscuits que l'on offre à la fin du repas, posés sur un petit plateau en inox, avec l'addition, dans les restaurants chinois ? Ces petits biscuits secs ont la particularité d'être crus. Quand on les casse, on découvre, pliés dans leur cavité, une petite feuille de papier rectangulaire sur laquelle est imprimée, en général, une maxime, une prédiction ou une phrase humoristique qui laisse souvent songeur. Alors, ça ne vous est peut-être pas si souvent arrivé d'en avoir en France, mais c'est parce que c'est une pratique plutôt courante aux États-Unis et au Canada. Tellement courante qu'une journaliste du New York Times, Jennifer Eitley, a essayé de comprendre quand et comment ce produit culte est né. Jennifer Eitley est d'origine chinoise. Et elle raconte qu'un jour, elle a surpris une conversation entre deux mamans chinoises. Et au milieu de la conversation, l'une d'elles a lâché d'un air un peu blasé quelque chose comme « Oui, bon, de toute façon, les fortune cookies, ça n'a rien de chinois ». Jennifer Eitley raconte, non sans humour, qu'à ce moment-là, c'était comme découvrir en même temps et que le Père Noël n'existait pas et qu'elle avait été adoptée. Parce que les fortune cookies, ça correspondait quand même, dans son enfance, à ce truc sucré qu'elle était super contente de manger au restaurant chinois. Dans The Fortune Cookie Chronicles, Jennifer Eitley raconte son enquête pour comprendre les origines de ce produit vendu comme authentiquement chinois sur le sol états-unien. Lors d'un voyage en Chine, elle ramène dans ses valises plein de fortune cookies et elle les fait goûter à des gens dans la rue, dans les parcs. Et partout, les gens ont le même air interloqué. Mais c'est quoi ce biscuit chelou avec un papier à l'intérieur ? Bref, personne en Chine n'a l'air de connaître les fortune cookies. De retour aux États-Unis, elle se met alors en quête des plus vieux fabricants de fortune cookies. Et chez l'un d'eux, à Los Angeles, elle trouve une boîte de conserve avec des fortune cookies dedans. Une vieille boîte poussiéreuse, pas encore ouverte, et qui date facilement de l'avant-guerre. Et chose intéressante, sur l'étiquette de la boîte, on peut lire « Tea Cakes ». « Tea Cakes », c'est comme ça qu'on appelait ce qui est devenu plus tard les Fortune Cookies. Mais un truc étonne alors instantanément Jennifer Eitley. En Chine, on ne mange pas de biscuits avec le thé, il n'y a pas de « tea cakes ». Ce n'est pas du tout une pratique nationale. En revanche, dans quel pays mange-t-on souvent un biscuit avec le thé ? Le Japon. Et en continuant à visiter d'autres vieilles usines de tea cakes dans le pays, Jennifer Eitley comprend que longtemps, ce sont bien les artisans japonais qui ont fabriqué des fortune cookies pour les jardins de thé aux États-Unis. Elle a même pu constater par elle-même l'existence de moules en fonte qui servaient autrefois à cuire un cercle de pâte avant de le plier sur lui-même pour faire des fortune cookies donc. Mais du coup, comment cette spécialité japonaise est-elle devenue au cours de l'histoire une confiserie plutôt associée au repas chinois ? Dans une conférence donnée en 2008 à la Bibliothèque du Congrès à Washington, Jennifer Eitley raconte.
La question qui nous intéresse ici, c'est de comprendre comment les fortune cookies qui étaient d'abord japonais sont devenus chinois. Eh bien, la réponse est assez simple. Ok, il fut un temps où les Japonais fabriquaient des fortune cookies. Puis la Seconde Guerre mondiale est arrivée et après cela, plus personne sur le sol américain ne voulait entendre parler des Japonais. À peu près au même moment, il s'avère que la cuisine chinoise était en train de gagner en popularité. Pourquoi ? D'abord parce que les Chinois nous avaient rejoints comme alliés pendant la guerre, ce qui a beaucoup contribué à apaiser les relations entre les deux pays, puisque les États-Unis ont un peu arrêté de voir la Chine comme une menace. Ensuite, parce que pendant le rationnement alimentaire durant la guerre, on devait consommer moins de viande. Sauf que dans la cuisine chinoise, on peut faire de grandes choses, même avec un petit bout de viande. La cuisine chinoise connaît donc un certain succès à cette époque-là. On peut d'ailleurs voir que la demande pour la cuisine chinoise triple entre 1942 et 1945 à San Francisco. Voilà dans les grandes lignes ce qui s'est passé. Et c'est donc dans ces années-là, en 1946, 47, 48, que des échoppes chinoises ont repris l'idée japonaise des fortune cookies. Et ce qu'il s'est passé, c'est que pendant la Seconde Guerre mondiale, beaucoup de soldats américains à San Francisco, qui était à l'époque le plus grand port du monde, faisaient des allées et venues entre leur base et le reste du pays. Et partout où ils allaient, ils demandaient dans les restos chinois de chez eux, par exemple dans l'Iowa ou dans le Minnesota, « Est-ce que vous avez ces fameux fortune cookies ?»
Go home after the war, and they asked their local Chinese restaurants in Iowa and Minnesota, why don't you have those Chinese cookies?
Alors les restaurateurs ont commencé à se demander, mais de quoi parlent-ils tous? C'est quoi ces fortune cookies? Et par effet domino, et parce que les nouvelles vont vite, tout le monde s'est mis à parler de fortune cookies. Le fortune cookie connaît alors un succès sans précédent. À la fin des années 50, on en fabrique même 215 millions par an. Et pendant la course aux élections présidentielles de 1960, on distribue même des fortune cookies comme objet de campagne en guise de tract.
Voilà, grâce au travail de Jennifer Aitley, on comprend désormais en quoi les fortune cookies sont, depuis le début, une aubaine commerciale, saisie par des artisans chinois à un moment où la communauté japonaise était fort stigmatisée aux États-Unis après la Seconde Guerre mondiale. L'histoire de cette aubaine commerciale continue puisque aujourd'hui, tout le monde s'est emparé des fortune cookies. On trouve plein d'entreprises qui proposent des mots personnalisés ou personnalisables pour les mariages, pour Noël, pour la Saint-Valentin, pour Hanouka. On trouve même un bon paquet de start-up qui proposent des fortune cookies à destination de séminaires d'entreprises. Voilà un peu où on en est arrivé. Pour en savoir plus sur les cookies en général et leur histoire, également très commerciale, n'hésitez pas à écouter l'épisode 105 de Bouffon, intitulé « Cookie, un biscuit open source ». Les Brèves d'Emily est une production Nouvelles Écoutes animée par moi avec l'aide en coulisses de Laura Cuissard et Clara Maté. Montage par Marine Rowe, générique réalisé par Aurore Meyer-Mailleux.